Vous écoutez RTL. RTL Soir, Philippe Robuchon.
Bonsoir, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour deux heures d'infos. À la une, le coup de poker de Nicolas Sarkozy dans un livre qui sort lundi, La France pour la vie. L'ancien président abat une carte importante pour son avenir. En tout cas, il bat sa coulpe comme jamais. 35 heures, ISF, yacht de Bolloré, casse-toi pauvre con. Il revient sur ce qu'il considère comme les plus grandes fautes de son quinquennat. Alors, ce livre suffira-t-il à relancer Nicolas Sarkozy pour 2017 alors que 63% des Français ne veulent plus de lui à l'Élysée? Et alors qu'Alain Juppé le distance dans les sondages. Invité de RTL Soir à 18h20, Éric Ciotti, député Les Républicains et président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Le 18h, Isabelle Choquet.
RTL Soir.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Les autres titres de l'actualité.
L'état d'urgence qui va être prolongé de 3 mois au-delà du 26 février. C'est ce qui a filtré des consultations en cours à l'Élysée sur la réforme de la Constitution. Dans le même temps, pour la première fois, le Conseil d'État suspend une assignation à résidence. La France fait un geste pour la Tunisie, 1 milliard d'euros sur 5 ans pour soutenir l'emploi. Il y a urgence car la contestation sociale grandit. Reportage à suivre dans la région de Kasserine. À suivre également, payer pour être remboursé. À la SNCF, c'est possible. Les échanges et les remboursements seront payants à partir d'avril. La technologie sur la ligne de but sera utilisée dès l'Euro 2016 de foot. Fini les erreurs d'arbitrage. Et puis cette dernière minute, un triplé français historique dans la Coupe du Monde de ski alpin. Peintureau remporte le combiné devant Muffat Jandé et Mermillot Blondin. La Bourse de Paris, elle finit sur une forte hausse de 3,10% à 4336 points. Les courses à Cagnes-sur-Mer, il fallait jouer le 10, l'As, le 17, le 11 et le 13.
On a retrouvé le générique. À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. 38 000 comptes de clients français retrouvés en Suisse par Bercy. Des avoirs qui s'élèveraient à 12 milliards d'euros pour la seule année 2008. Alors, s'agit-il forcément d'évadés fiscaux? Si oui, ont-ils déjà régularisé depuis? On posera la question à Marie-Bénédicte Allaire. 18h27, les coulisses de l'actu. Jour de deuil à Montréal, où vont avoir lieu tout à l'heure les obsèques de René Angélil, Marie et impresario de Céline Dion. Philippe Courbet pour RTL est sur place. À 18h32, Alain Duhamel, il nous dira ce qu'il pense du livre de Nicolas Sarkozy. Il l'a lu. À 18h35, l'un des comédiens les plus atypiques, les plus imprévisibles du cinéma français, Albert Dupontel. Mercredi prochain sort sur les écrans Les Premiers, Les Derniers de et avec Bouly Lanners, un comédien, un réalisateur belge. Albert Dupontel y joue un chasseur de primes aussi inquiétant que généreux. 18h50, Laurent Gérard, et après 19h, on refera le monde. La météo, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Demain, plus de douceur, plus de soleil aussi.
Oui, mais alors avant cela, justement, ce soir, on va encore sentir un petit peu l'hiver. On a des chutes de neige en cours alors qu'il est dans les Ardennes. Ça va peu à peu se décaler vers le nord-est. Ça, c'est la dégradation d'aujourd'hui qui part, et demain, c'est vrai. Il fera plus doux, il fera un peu plus beau. La matinée sera quand même assez grise, mais on aura des éclaircies dans la journée. Quelques gouttes de pluie en fin d'après-midi seulement sur la pointe bretonne, et donc un redout qui se confirme. Comptez 0 à 10 degrés demain matin de Strasbourg à Biarritz, 4 à 17 en journée avec 7 à Rouen, 8 à Paris, 13 pour Nice, Quimper et Bordeaux.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Avant même sa sortie, ce livre est déjà un phénomène. La France pour la vie de Nicolas Sarkozy fait l'objet d'un lancement hors norme. Isabelle.
L'ouvrage sera disponible en librairie à partir de lundi, mais son contenu a été divulgué dès hier soir. L'ancien président y fait un mea culpa assez inédit. Il regrette son casse-toi pauvre con, ses vacances sur le yacht de Vincent Bolloré et sa stratégie en matière de réforme. Au passage, il égratigne aussi son successeur, François Hollande. Bonsoir, Benjamin Sportouche.
Bonsoir, Isabelle.
La première particularité de ce livre, c'est le grand mystère qui l'a entouré jusqu'à maintenant.
Ah oui, hein. Tout a été fait pour qu'il n'y ait aucune fuite jusqu'à la parution du livre. Hein. Chez Plon, la maison d'édition, seulement 3 personnes étaient au courant, dont Muriel Beyer, la responsable éditoriale, qui nous raconte cette opération secrète lancée en décembre dernier seulement auprès des libraires.
Dans notre jargon interne, on appelle ça un livre qui s'appelle XY. C'est-à-dire que nos services commerciaux téléphonent à tous les libraires en disant « Voilà, nous avons un livre très important, quelque chose avec une très grosse mise en place. Faites-nous confiance, c'est quelque chose de lourd. »
Alors voilà, les libraires n'ont connu le nom de l'auteur mystère que lundi, hein, c'est tout frais, quand Paris Match a révélé son identité. Et depuis, les réservations n'ont pas cessé d'augmenter à ce jour. Et c'est une information que je peux vous donner, 104 000 livres ont été commandés par les libraires. C'est un chiffre exceptionnel dans le monde de l'édition. Et Plon estime possible d'atteindre les 300 000 exemplaires. Autre secret bien gardé, il faut bien le dire, les recettes pour son auteur, Nicolas Sarkozy, Muriel Beyer nous explique.
me posera toujours la question et on la pose très souvent, alors la valoir, les droits et tout. Et vous savez parfaitement que les éditeurs ne vous répondent pas parce qu'on est comme des avocats. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est normal. Tout ce que je peux vous dire, alors là, c'est totalement classique. Tout ce qu'il y a de plus classique.
Voilà, rien de plus classique, on n'en saura pas plus, mais il faut bien reconnaître que tous les politiques dans leur ensemble sont très discrets habituellement en la matière.
Merci pour toutes ces précisions, Benjamin Sportouche du service politique d'RTL. Nicolas Sarkozy, donc, qui a été reçu aujourd'hui à l'Élysée dans le cadre des consultations sur la déchéance de nationalité. Le président des Républicains assure que François Hollande a bien l'intention d'introduire la déchéance pour les binationaux dans la Constitution. Par ailleurs, selon le Parti communiste, l'état d'urgence va être prolongé pour 3 mois supplémentaires après le 26 février.
Un état d'urgence qui a conduit à une multiplication des assignations à résidence. Et pour la première fois, le Conseil d'État en suspend une.
Elle concerne un habitant de Vitry-sur-Seine, présenté comme un islamiste radical et dangereux. Eh bien, ça n'est pas l'avis du Conseil d'État, Elisabeth Fleury.
Eh bien non, parce que les accusations de l'administration se sont révélées en fait très fragiles. Halim Abdelmalek, c'est la personne en question, aurait été vu rôdant auprès du domicile d'un dessinateur de Charlie Hebdo. En réalité, il allait rejoindre sa mère qui habite à 2 pas. Il prenait des photos en douce. Vérification faite, il était au téléphone avec son épouse, en mode haut-parleur, car il avait conservé son casque de scooter sur la tête. Il aurait participé à un trafic de véhicules organisé par des radicaux islamistes. Il a été entendu par la justice dans cette affaire, c'est vrai, mais comme témoin et victime. Pour son avocat, maître William Bourdon, ce dossier illustre les dérives de l'état d'urgence.
On criminalise, on bannit des gens sur des soupçons qui ne reposent que sur la logique d'emballement dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et sur une logique de toute puissance débridée des services. Et le Conseil d'État rappelle qu'il y a des principes, des valeurs fondamentales dans ce pays. L'arbitraire n'est pas de mise dans une démocratie.
À ce jour, le ministère de l'Intérieur a prononcé 406 assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence.
Merci Elisabeth Fleury. En déplacement à Londres, Manuel Valls a affirmé que la France pouvait utiliser tous les moyens face au terrorisme jusqu'à ce qu'on puisse en finir avec l'État islamique. Il a confirmé que c'était, d'après lui, le combat d'une génération, environ 30 ans. Mais il a précisé ensuite qu'il n'était pas question de pérenniser l'état d'urgence pendant des années.
5 ans après la révolution de Jasmin, la Tunisie renoue avec la contestation sociale et la France fait un geste pour lui venir en aide.
Oui, François Hollande, qui recevait aujourd'hui le Premier ministre tunisien, a annoncé un plan de soutien d'1 milliard d'euros pour les 5 prochaines années. Pour l'heure, le couvre-feu a été décrété dans tout le pays car la tension monte depuis plusieurs jours. Les manifestations contre le chômage et la misère se multiplient. Elles sont parties de la région défavorisée de Kasserine, dans le centre du pays. Reportage sur place de Sandro Luitens pour RTL.
L'avenue principale de Kasserine est entièrement recouverte de pierres et de douilles des bombes lacrymogènes. Malgré le couvre-feu, les jeunes protestataires poursuivent les affrontements contre la police pendant qu'un autre groupe occupe le siège du gouvernorat.
Tous ces gens que vous voyez ici, ils n'ont pas de travail. Ils sont chômeurs, ils n'ont rien à manger, rien à boire. Ils n'ont rien à faire. Il n'y a rien à faire ici.
Chômage, corruption et un manque de perspectives flagrant pour la jeunesse de Kasserine. Il n'y a que la brouille et la contrebande avec l'Algérie voisine.
Les jeunes ici, ils vivent grâce à l'Algérie. Nous, quand on travaille avec l'Algérie. Mais dites-moi, nous, on est Tunisiens ou on est Algériens ?
Embauche à bas salaire, financement de projets, les promesses des autorités pour calmer le jeu sont jugées inefficaces par les observateurs. Elles n'ont d'ailleurs pas convaincu les manifestants. En quelques jours seulement, la vague de contestation a gagné tout le pays.
En Tunisie pour RTL, Sandro Luitens.
On vous parlait donc de cette nouveauté que la SNCF veut lancer, Isabelle. Nous, on s'en serait bien passé, les clients. Les échanges et les remboursements des billets TGV vont devenir payants.
Et la contribution n'est pas négligeable, Philippe. 5 euros minimum si vous changez d'avis assez longtemps à l'avance, mais 15 euros si c'est à la dernière minute. C'est pas rien, Éric Vanier.
Oui, car la SNCF veut clairement dissuader ses clients de jongler avec leurs billets. Vous savez, on bloque plusieurs places à des dates ou des heures différentes. Et on fait son choix définitif à l'approche du jour du départ en échangeant ou en se faisant rembourser les réservations dont on n'a plus l'utilité. Et bien cette pratique, la directrice générale de Voyage SNCF, Rachel Picard, ne veut plus que ça se développe car le résultat, c'est que des TGV qui affichent complet 3 jours avant partent finalement avec des sièges inoccupés. D'où cette décision donc de la SNCF, à compter du mois d'avril, de faire payer les remboursements et les échanges.
Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir libérer ces places en dernière minute qui sont occupées souvent par des gens qui en fait change de train, on n'a pas pu réserver et où finalement il y avait de la place. Donc de remettre à disposition ces places qui finalement vont voyager vite.
Alors ne seront pas concernés quand même par ces frais de remboursement et d'échange ceux qui voyagent avec une carte de réduction et ceux qui achètent des billets pro, ce sont des billets qui sont plus chers que la gamme loisirs.
Merci, Éric Vanier.
Et la galère continue pour les usagers de la ligne D du RER en région parisienne. Les conducteurs font valoir leur droit de retrait après l'agression d'un de leurs collègues mercredi soir à Corbeil-Essonne. Le trafic est très perturbé ce soir encore sur la ligne D, mais aussi sur la ligne R.
RTL Soir, Philippe Robuchon.
Et pour la suite du journal avec Isabelle Choquet, les 18h12.
C'était un peu l'arlésienne du foot européen. La vidéo sur la ligne de but sera finalement utilisée, Isabelle, dès cette année à l'Euro.
Oui, et dès l'année prochaine en Ligue Europe et en Ligue des Champions. Alors cette technologie permet de dire avec certitude si un ballon a bien franchi la ligne. Après bien des tergiversations, l'UEFA vient de dire oui par la voix de son numéro 2, Gianni Infantino.
Ben, ça va servir à voir s'il y a eu un but ou pas. Aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui existe, qui est là. Et c'est normal que l'UEFA aussi étudie ces questions-là. C'est ce qu'on a fait sérieusement, professionnellement. Et finalement, on a pris la décision de commencer avec le championnat d'Europe, après la Champions League et l'année d'après l'Europa League. C'est pas simple, parce qu'en Champions League, vous avez 32 équipes, dont 32 stades. En Europa League, 40 équipes, dont 40 stades à équiper. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il faut le faire pour mettre en place cette technologie de but qui va certainement dissiper toutes sortes de doutes qui peuvent exister sur la chose la plus importante dans le football, est-ce qu'il y a but ou pas.
Gianni Infantino, micro RTL de Frédéric Perruche. A noter que l'UEFA soutient toujours Michel Platini. Elle ne lancera pas de nouvelles élections tant qu'il n'aura pas épuisé tous ses recours contre sa suspension à la FIFA. Saluons ce soir le triplé historique des Français dans la Coupe du Monde de ski alpin à Kitzbühel en Autriche. Alexis Pinturault l'a emporté dans le combiné devant Victor Muffat-Jandé et Thomas Mermillot-Blondin. Il faut avoir un nom composé pour faire du ski. En tout cas, c'est du jamais vu depuis 1970.
On revient à l'actu éco-social, Isabelle. Le mouvement des éleveurs fait tache d'huile dans l'ouest des Côtes d'Armor à l'Ille-et-Vilaine et le ministre de l'Agriculture est directement visé.
Oui, ce matin, les éleveurs ont manifesté devant la préfecture de Rennes à l'aube, rassemblement également à Saint-Malo à la mi-journée et puis toujours le long de la Nationale 12 du côté de Guingamp. Les éleveurs ont le sentiment de ne plus avoir de ministre. Voilà ce qu'a déclaré Xavier Belin, le président de la FNSEA. Illustration tout de suite avec ces éleveurs que vous avez rencontrés pour RTL près de Lamballe, Nicolas Bobby.
Oui, effectivement, les producteurs que je viens de rencontrer sur la RN12, qui est toujours bloquée, qui est bloquée par des tracteurs, des feux de pneus, des feux de palette, ont véritablement ce soir le sentiment de ne plus avoir de ministre.
Non, il est zéro. C'est un zéro, triple zéro. Il ne fait rien pour nous. Il sait très bien que tout marche mal.
Théoriquement, c'est notre ministre. Maintenant, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il veut? Je ne sais pas.
Le ministère de l'Agriculture, c'est vide, il n'y a plus personne. Le Foll, c'est le grand politicien, mais des paroles, mais pas d'actes.
D'ici l'été, 1000 fermes devraient fermer dans les Côtes d'Armor. Pour Didier Lucas, le président de la FDSEA, le ministre peut mieux faire.
Peut mieux faire, c'est sûr. Sinon, on ne serait pas à 20% des exploitants de producteurs de porc qui sont en train de fermer leurs portes et 10% des producteurs de lait. Quand on dit qu'on débloque de l'argent, c'est de la trésorerie que l'on trouve, mais qu'il faut rembourser après. Donc rien n'est résolu tant qu'on n'a pas de rentabilité dans les exploitations.
D'ailleurs, les éleveurs ont bien l'intention de rester. Des remorques avec de vieilles souches viennent d'arriver il y a quelques instants. Mais les CRS sont en position un petit peu plus loin sur la route, près des agriculteurs, avec leurs canons à eau.
Nicolas Bobby dans les Côtes d'Armor pour RTL.
À tout à l'heure, 18h30. Isabelle.
À tout à l'heure, sans faute.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. Le fisc français n'en a pas fini avec les évadés fiscaux. On parle aujourd'hui de 38 000 comptes de clients français saisis dans une grande banque suisse. Bonsoir Marie-Bénédicte Haller.
Bonsoir.
Alors première question, s'agit-il forcément de comptes cachés ?
Ça, seul Bercy peut le dire, mais le ministère des Finances s'abrite derrière le secret fiscal. Ce qu'on sait effectivement, c'est que des documents portant sur l'année 2008 ont été remis aux juges français par l'Allemagne il y a quelques mois. Et qu'à cette époque, les avoirs des clients français de la banque suisse UBS se montaient à 12 milliards d'euros. Ce qui ne veut pas dire que tous étaient des évadés fiscaux. Un contribuable français a le droit de détenir un compte à l'étranger à condition de le déclarer au fisc. C'est d'ailleurs la ligne de défense de la banque UBS. Elle souligne qu'elle a mis en place des mécanismes de contrôle très rigoureux et qu'elle demande aux clients de clore leurs comptes s'ils ne peuvent prouver qu'ils sont en règle.
Alors Marie-Bénédicte, ces évadés fiscaux, se sont-ils fait connaître ?
Eh bien, en admettant que tous ces clients aient été des fraudeurs, certains ont peut-être déjà régularisé leur situation. Effectivement, effectivement, en 2009, le fisc a récupéré 1 200 000 euros auprès de 4 700 évadés fiscaux, moyennant ristourne de pénalité. Et depuis 2013, Bercy a mis en place un service de régularisation très structuré et sans ristourne. Au total, 26 milliards d'euros ont déjà été rapatriés. Cette année, Bercy espère encore près de 2,5 milliards de rentrées fiscales auprès de repentis fiscaux, d'autant qu'il reste encore 33 000 dossiers en attente.
Marie-Bénédicte Haller.
RTL Soir, 18h17.
Dans un instant, le premier invité de RTL Soir, Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Le livre qu'il sort lundi, peut-il relancer Nicolas Sarkozy pour 2017? On lui posera la question.
RTL Soir.